Ok. Tempo poème. Bonjour et bienvenue à la 10e lecture de Tempo poème. En effet, c'est fin 2018 que Christian Saint-Paul, Francis Pournon et plus tard moi-même, Svante Swanström, avons entamé une série de présentations de poètes à l'Hostal d'Occitanio. Par nos rencontres bimestrielles, nous entendons pallier un manque, tant en occasion pour les amateurs d'entendre de la poésie de vive voix, que pour les poètes de rencontrer un public. Il s'agit ainsi d'une action enthousiaste autant que d'exigence et de résistance. Le bienveillant accueil de la Cubergenzio Occitano, qui gère l'Hostal, a permis de présenter ici Andrea Genovese, Christian Saint-Paul, moi-même, Svante Swanström, Claude Barrère, Francis Pournon, Franck Bardou, Capitaine Slam, Casimir Pratt et Elisabeth Aragon. La participation d'amis, poètes, comédiens et musiciens ont contribué à la qualité de ces lectures. Notre saison poétique 2022 se poursuivra le 2 juin avec la présentation de Béatrice Bouffil. Ce soir, notre poète invité est Bruno Ruiz, qui n'est pas un inconnu à Toulouse. L'enregistrement que nous réalisons déjà cet après-midi avec Radio Esprit Occitanie permet de garder une trace de la lecture de la soirée. Il est disponible sur www.esprit-occitanie.fr. Merci de votre intérêt et bonne écoute.
Bruno Ruiz, c'est une grande voix de Toulouse. En 1981, je réalisais une émission de radio sur la poésie à Canal Sud. Pour la fête de la poésie, instaurée par Jacques Lang, nous avions donné la parole toute la journée aux poètes et comédiens venus lire des poèmes. Bruno Ruiz, qui venait de publier à Tribu, son premier recueil, a donné sa prestation à minuit, le seul moment où il a pu se libérer. En l'écoutant, j'ai été saisi et j'ai compris que c'était là une grande voix de la poésie qui honorerait Toulouse. Cet artiste, auteur, compositeur, interprète, nous vient des Landes, d'Arcachon, où il est né, de Bordeaux, où il a étudié, de la base militaire de Francazal, où il était affecté pour son service militaire, ce qui lui permit de découvrir Toulouse.
Absolument.
Et de la République espagnole. En effet, en s'installant à Toulouse en 1978, il s'agrégeait à ce terreau fertile des réfugiés et fils de réfugiés de la guerre civile espagnole. Cela allait briller dans tous les domaines de la cité. Bruno Ruiz, à Toulouse, avait fondé dès 1976, avec le chanteur poète Philippe Berthaud, Toulouse Action Chanson, et animé jusqu'en 1985 des ateliers d'écriture. Bruno Ruiz est venu à l'écriture en 1966. Pendant plus de 50 ans, il n'a cessé de produire. Aujourd'hui, cette richesse thésaurisé toutes ces années et publié par l'association ITAC en sus de 12 volumes, je pense qu'il y en aura plus de 12, avec le titre « Le poète invisible ». La recension de toute sa production écrite vient compléter, sinon conclure, une étourdissante carrière de chanteur, compositeur, interprète, encouragé par Colette Mani, poursuivi en collaboration avec Jean-Louis Tignor pour l'hommage à son père, le républicain espagnol Antonio Ruiz Delgado, et dans l'amitié de Léo Ferré, avec lequel il a chanté. Bruno Ruiz, c'est une écriture et une voix. Une voix produite sur les scènes de France et d'Europe. Une voix écoutée au festival Le Marathon des mots et avant, au cours des lectures de la revue Multiple d'Henri Hurtebise à Ombre Blanche. Une voix donnée au poème de Michel Baglin, L'alcool des vents, mis en spectacle au théâtre Jules Julien. La rencontre avec le pianiste Alain Bréheret a été décisive. Bruno Ruiz, artiste polymorphe, est aussi un poète de music-hall. Il compose chansons et musiques pour des pièces de théâtre données ici à Toulouse, au Sorano, à Montauban, en France, d'une façon générale, et même en Allemagne. Ses textes visent toujours la perfection de la langue et sa démarche est toujours une démarche fraternelle. Une activité artistique vertigineuse. Il était temps qu'en sus de ses albums, Bruno Ruiz publie l'ensemble de ses écrits. L'hommage à son père, Altavoz, est des tombeaux. Par ce terme, tombeau, on désigne le poème funèbre adressé à un défunt. C'est un des tombeaux les plus puissants que j'ai pu lire. Je terminerai cette courte présentation de ce grand artiste par les lignes écrites par sa fille, Colline Ruiz d'Arras, sur le poète invisible. Je la cite donc. Le poète invisible est la somme de tout ce que Bruno Ruiz a écrit, dit, chanté, psalmodié, rêvé et imaginé entre 1966 et 2020. Les 12 volumes que comporte cette œuvre protéiforme livre à la fois des textes de scènes, de chansons, des poèmes, des petites nouvelles, des aphorismes, encore des textes critiques. Plus que tout cela encore, le poète invisible est une démarche éditoriale, fruit de 5 années de collecte et de tri, en quête de l'affirmation d'une identité poétique. Car si Bruno Ruiz donne tout à lire, l'atelier comme la vitrine, c'est un choix volontaire. Celui de montrer de quoi est faite toute une vie d'écriture, que ceux qui l'ont vu ou entendu chanter ne pouvaient pas se représenter jusqu'à présent, car plus de 80% de ses textes étaient à ce jour inédits. Chaque volume comporte une ou deux périodes d'écriture désignées par un verbe. L'ensemble des écrits de chaque période est commenté dans des notes qui permettent à l'auteur de souligner l'importance ou le contexte d'écriture de certains textes, la fonction et la place d'autres dans l'ensemble de l'œuvre, proposant ainsi au lecteur des clés de compréhension de première main. Chaque période est enfin close par la liste de l'ensemble des activités menées par Bruno Ruiz entre les deux dates retenues, création, récital, lecture, atelier, publication. Ainsi, le poète invisible est une somme, mais pas une œuvre complète, car 2 volumes sont toujours en cours de préparation. Elle peut se lire dans l'ordre ou le désordre, par bribes, par période ou par volume, mais aussi et surtout dans son intégralité, afin de percevoir la cohérence d'une œuvre bigarrée, dont le foisonnement même désigne sa constante, celle d'une écriture vive, sans cesse à la recherche de la plus exacte expression de la langue. Colline Ruiz d'Arras.
Bon. Que rajouter ? Je te remercie vraiment. Si, j'ai rien à rajouter à ça, vraiment, sauf que peut-être que c'est dit comme ça, ça fait un peu prétentieux, je trouve, pour moi. Je veux dire, je suis pas trop... Alors, bon... Il est évident que le vrai problème pour présenter mon poète invisible, c'est la façon de le faire. J'aurais pu évidemment choisir de faire un montage de l'ensemble de ces textes, choisir moi-même ces textes et de les organiser. Bon. Mais au fond, je pense que ça aurait donné une lecture qui n'aurait pas tenu compte justement de cette hétérogénéité de l'écriture. C'était très difficile de passer d'une galéjade, vous allez voir peut-être, qu'il y a des fois des chansons ou des textes qui sont des pochades, et d'autres qui ont une tenue qui est un peu différente, qui rentre dans un lyrisme qui est un peu différent. Donc, il fallait trouver la formule. Et la formule, j'ai sélectionné donc une centaine de textes possibles dans toutes les périodes que j'ai numérotées. Et je les ai numérotés mais elles ne sont pas ces textes ne sont pas numérotés selon l'organisation chronologique, mais une organisation absolument aléatoire. Et je vais donc vous demander de me donner un chiffre de 1 à 100, et je dirai ou chanterai le texte qui tombera au hasard. Donc ce n'est pas moi qui serai responsable de la mauvaise qualité de l'émission, nous serons tous responsables. Pour cela, ce que je vais faire, j'ai un petit chronomètre, je l'ai calé sur 45 minutes. Quand le chronomètre s'arrêtera, même s'il s'arrête au milieu d'un texte ou au milieu d'une chanson, dès que la sonnerie retentit, je m'arrête et vous êtes libre ensuite d'aller profiter du soleil toulousain. Alors, je l'envoie. Voilà. Donc c'est parti pour 45 minutes.
Eh bien, moi je prends volontiers le numéro 54.
54. Carambolage. Un texte écrit à l'âge de 22 ans, c'était en 1975. Assis près d'elle, au grand café, nous sommes seuls, je suis à elle. Nous devisons d'amour légère, de poésie, de cinéma. À chaque mot, je me rapproche comme pour la voir de plus près. J'entends sa voix, ses cheveux courts. L'envie de mordre son oreille et tous ces mots qui me lessivent. La discussion est évasive. Ma langue s'égare à son cou. Entre nos dents, juste un baiser. Les mots se taisent dans le bruit des boules du carambolage. Un soutien-gorge est dans son rire. Son petit chemisier s'entrouvre. Ces grands miroirs qui nous regardent, sa langue est un radeau de sucre. Elle a mon souffle, elle a sa menthe. Je rêve un peu de son nombril. Ah, l'aimer là, sur cette table, débroussailler des doigts sa jungle, boire ses eaux jusqu'à la source, elle si blanche et moi si jeune. Ah, vivre en elle, entre ses jambes, feuilles d'érable en son hiver. Être son île retrouvée, la belle odeur d'un vieux cresson. Oh, ma bougie des mers, ses yeux glissant sur la fraîcheur, ses dents frappant doucement sur le verre. Je suis déjà presque à l'envers. Je vois le col gris et usé de celui buveur d'à côté. Sûr, c'est un voyeur avisé. Nous faudrait-il nous excuser ? L'heure s'accroche à la pendule, je sens sa jupe sous la table. Des pièces tombent sur le marbre, le café va bientôt fermer. S'arrête le désir dehors, sur le trottoir. Il fait si froid. Et moi qui fais le beau encore, on se promet de se revoir. Ai-je trop bu ? Étais-je ici ? Je suis mouillé. Ma tête est lourde. Il faut que je brûle mon vide, redevenir un os de sèche. Alors, notre numéro ?
Numéro 1.
Ah, numéro 1. Je l'ai écrit à l'âge de 45 ans, c'était en 98. C'est extrait d'un recueil qui s'appelle « Un bol de lait jamais n'abreuvera le lascar ». Voilà. Je vais essayer d'être, au départ c'était un type qui, c'était un, et sa mère est morte très vite, atteinte d'une angine de poitrine. Quant à son grand-père, je veux parler de son gendre pour être plus précis, Lui, je ne l'ai jamais connu. Et il aurait fini sa vie d'après ce que je sais de lui. Maintenant, s'il n'avait pas été comme... Il ne serait pas mort des séquelles d'une phlébite. Bref, c'était plutôt un gars assez... Qui n'était pas du tout fait pour ça, surtout en tant que... Et alors, il s'est retrouvé... C'est-à-dire que, comme il était dans une... Où l'on parlait beaucoup, comme par hasard, il a choisi la voie la plus... Et il s'est retrouvé un peu comme un... Et un jour, il me dit, mais écoute, avec ta tu vas te faire... Avec ta, dans la police, tu gagnerais beaucoup plus d'argent. Or, c'était à l'époque où il était de bon ton que le... Pas à l'époque où la femme, mais plutôt, je pense, à l'époque où, bref, il était fait pour, comme moi, pour le... Et alors, petit à petit, parce que ça n'a pas duré très longtemps, c'était un type un peu comme moi, au fond, à peu près comme moi, oui, à peu près pareil. Il était passionné de... Et alors, je lui disais gentiment qu'à mon humble avis, il avait lu plus de... Et c'était pas obligé d'avoir lu pour... Et ça l'a poursuivi toute sa vie. Hein. Et il se marrait quand je lui disais ça. D'ailleurs, ça, il n'en reste qu'une partie. Enfin, je veux parler de ce qu'il était, ou plutôt... de ce qu'il croyait être. Et si vous voulez, enfin, je lis couramment maintenant, mais j'ai du mal à... Il m'a fallu longtemps. Et donc, il est rentré dans la... Et il s'est retrouvé à l'époque. Et puis, il a été nommé à... Et on lui a dit, là, vous allez être... Et il est arrivé l'année de... Et puis, il est passé à la... Entre parenthèses, il était... Pour être poli, et entre parenthèses, il était bien ennuyé. Il disait souvent, mais ce soir, je suis de je sais pas comment de il disait ce soir il faut que j'y aille vraiment jusqu'au bout. Il disait à ça c'est combien, et l'autre disait mais c'est rien du tout, tu parles, c'était beaucoup plus, et elle le savait très bien, mais bon, il laissait courir. Alors elle disait trois comme ça, mais ça va faire du minuit. Et il y allait quand même par devoir, juste pour s'entendre dire madame mais ne laissez pas votre, parce que ça va tomber dans la... Et risque de fracasser le crâne de quelqu'un. Ah oui, c'était un drôle. Et il vérifiait les gosses également, les plus jeunes, par deux. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et il avait une sainte horreur de ça. Et pour la petite histoire, il en a eu cinq, donc trois complètement... Voilà. Voilà en gros, quoi.
Numéro 99.
Oh la vache. Soyez beau du fond des yeux, soyez dans vos âges mûrs, démurez l'haine en vous, plongez-la dans l'onde claire. Découpez l'amour des hommes, de couplets ouverts aux vœux, dématez vos crises en vous, plus haut que l'eau des murs. Saluez le temps qui va, saluez des mauvais vieux, délacez vos nœuds en vous, et prenez-vous du désir. Lancez-vous dans le courant, lancez mieux pour boire au fond, débouchez vos bouches closes, dévidez vos tourneries. Changez vos rêves d'hiver, changez ton besoin de vous, pour peindre le printemps en aquarelle de pluie. Avouez vos certitudes, avouez pour ceux qui doutent, retrouvez des mélodies dans vos voix qui se sont tues. Elle court, la maladie d'amour, rain and tears of the same. Laissez une fenêtre ouverte à votre maison. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Ça peut durer des heures comme ça. Hein. Un autre numéro ?
23.
23. Le 23, alors le 23, c'est un texte que j'écris pour un peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Franciam Charlot, que vous connaissez peut-être, qui fait toujours des têtes de monstres, voilà, qui sont très impressionnants. Je vais vous en faire un extrait parce que le texte est beaucoup plus long que ça. Voici les crieurs de silence, avec leurs dents qui bouchent, leur vigueur dressée, leur corps fatigué, leur jeunesse sans âge. Ils sont là, ici même, contre toute attente, traversant les heures comme des aveugles, avec leur rythme d'acrobate, leurs traces altérables, leurs guenilles sans ailes. Voyez leurs plaies, leurs rêves de multitude, leurs croyances incertaines. Regardez-les envahir les géographies de l'univers, peupler les déserts, les cimes improbables, avec leur force dérisoire, leur désir lamentable, leur terreur impatiente. Crieurs de silence dans la folie carcérale, la régression infantile, crieurs de silence qui creuseront la terre pour y jeter leurs cadavres. Ils s'en vont, blessés d'infini, dans les couloirs obscurs, la sueur immobile, l'hystérie vacante. Chacun de leurs mots, chacun de leurs gestes contient leur mort, redessine l'histoire, et sous leurs ongles, leur travail est inutile, leur sommeil indélébile, leur courage insoupçonnable. Par grappes, ils s'agglutinent contre les larves sous les métaux du ciel, racines rampantes, étouffées de mystère entre l'air et le plomb, plus décharnées que la mâchoire des moribonds, plus sordides que des seringues dans des bras d'adolescents. Avec l'impuissance de leurs doutes dans l'huile de leurs jours, voyez descendre, englués dans les goudrons des villes, lavant leurs muscles d'invalides, ces meurtriers cycliques, ces vierges sanglantes, solidaires dans l'égoïsme, héros dans l'indifférence, l'oubli, comme des gueules ouvertes sur la nuit, braquant des continents pour le triomphe d'un seul peuple, brûlant les océans pour la victoire d'un seul maître. Ils vont mourir, bien sûr. C'est sûr, dans la prison de leur cadre, leur croyance trahie, leur religion prétexte, ils avancent, vides, avec le sang tiède, sans trajectoire, sur des puzzles en désordre, combattant de l'incohérence, dans l'ivresse du chaos, trichant avec leur dieu dans les temples, armés parmi leurs frères, ces énigmes sans nom, hommes tragiques, riant de leur absurde plaie, hommes unis aux musiques guerrières, liés à ceux qui suivent, aux hommes qui divisent et rassemblent, bâtisseurs d'Amérique allumant des incendies dans des décors pour militaires effrayants des foules hagardes, hommes pétris d'espérance et de contradictions solidaires et assassins, justifiés et barbares, hommes désespérants, montreurs des chantiers qu'ils engendrent, cherchant la responsable de leur manque, de leur marque, hommes vengeurs au nom des fausses légitimités, trahissant la parole, le silence, hommes élevant des murs pour les faire tomber, repoussant les frontières pour multiplier les ghettos, les lignes de mire, hommes sales qui colonisent la pensée avec leur mafia souterraine, leur confrérie secrètes, leur police corrompue, leur réseau d'élite, hommes qui ne cherchent que là où ils trouvent, qui ne combattent que là où ils gagnent, que le pouvoir abaisse, l'argent défigure, l'ambition mutile, hommes capables de torture, de génocide, banalisant les famines, les fléaux, les maladies, hommes qui se taisent sous les masques des encres serviles, la démagogie des images stériles, l'artifice des violences, l'expertise des larmes, hommes se donnant la raison de l'inacceptable, fantômes errants, bavards, face à l'inadmissible, muet, face à l'intolérable, noir et blanc, jamais tout à fait blanc, jamais tout à fait noir, homme sous les étoiles, sans verticalité, sans dimension, sans identité, nos frères discutables. Un autre numéro ?
Numéro 100.
Avons-nous vieilli selon nos désirs? Sommes-nous plus beaux que notre jeunesse? Avons-nous choisi la vie que l'on mène? Dormons-nous le soir sous nos deux oreilles? Sommes-nous fidèles à nos utopies? Avons-nous gardé nos jardins secrets? Reconnaissons-nous nos vieilles erreurs? Chantons-nous les mêmes chansons qu'autrefois? Être fidèle à son poids d'hirondelle, être la sentinelle à chaque nuit nouvelle, rester sensible à ce monde terrible, être encore accessible à des amours possibles. Avons-nous gagné nos châteaux d'Espagne? Pleurons-nous encore, pleurons-nous souvent? Avons-nous gardé des doutes amers sur l'amour des autres, des dieux incertains? Cherchons-nous encore le soleil des hommes? Avons-nous la haine de l'indifférence? Avons-nous le poids de nos idées folles? Sommes-nous encore debout dans la nuit? Être fidèle à son poids d'hirondelle, être la sentinelle à chaque nuit nouvelle, rester sensible à ce monde terrible, être encore accessible à des amours possibles. Oui. Un autre numéro ?
19.
19. Je vais rester. Alors, bon, c'est. J'avais 60 ans. Quand j'ai écrit la précédente, je dois dire que j'avais. Je devais avoir dans exactement 43 ans. Et là, je l'ai écrit à 60 ans, donc c'est en 2013. Je vais rester, puisqu'ici même est mon ailleurs, pour devenir léger de tout, planter des fleurs. Je vais rester, même un peu sourd, malgré ma peur, me lever tôt, me coucher tard, te donner l'heure. Je vais rester, puisqu'il est dit qu'on ne part pas, lire et relire et voyager, suivre tes pas. Je vais rester, je suis d'ici, ne t'en fais pas. C'est fou le temps, ce qu'il oublie quand il s'en va. Je vais rester, parmi les mots silencieux, attendre encore, te retenir, faire du feu. Je vais rester, essayer d'être un peu moins vieux, te regarder lorsque tu dénoues tes cheveux. Je vais rester pour voir grandir ceux qui naîtront, te voir encore assise à broder tes saisons. Je vais rester pour t'écrire encore des chansons, pour regarder mourir les dieux sur l'horizon.
Numéro 7.
Au fond du puits, j'ai vu la mer, au fond de la mer, j'ai vu l'enfant, au fond de l'enfant, j'ai vu le feu. Au fond du feu, j'ai vu l'amour. Au fond de l'amour, j'ai vu la mort. Au fond de la mort, j'ai vu la terre. Au fond de la terre, j'ai vu la vie. Au fond de la vie, je me suis vu. Au fond de la vue, je vous ai vu. Au fond de vous, j'ai vu l'envers. Au fond d'un verre, je vous ai crié. Au fond du cri, j'ai vu le corps. Au fond du corps, j'ai vu le cœur. Au fond du cœur, j'ai vu les hommes. Au fond des hommes, je n'ai rien vu. Au fond de la vue, j'ai vu le fond. Au fond du fond, j'ai vu la vue. Au fond de la vue, j'ai vu le puits. Alors peut-être quelqu'un ici pourra m'indiquer le chemin qui mène au puits.
34.
34. Alors, il y avait les Galiniers, les Salomon, les Van Beck et les Pellegrins. Et il y avait les Lorando, les Aldeguer, les Trémandy, les Amuner, les Bouzigue, Sylvie Latournerie, Alfred Gramaglia et Adélaïne Marmotte. Il y avait également Martine Marinière, Jean Houtenpen, Jean Marjorel, Jeanne Tambouri et Alain Locama, Pierre Fischer. Et la belle Berthe Clémence. Il y avait Jacques Floderer avec sa femme, Amerigo Lopez et Catherine Fondecave, les Villeneuve, les Roussel, les Sombeil, les Foucard, les Véniel, les Listoff, les Hurtig, les Schoups, les Trappes, les Rois, les Samuel, je ne sais plus qui, les Haas, les Ponce, les Chirouze. Et malgré tout, je me sentais si seul. Un autre numéro ?
Le numéro 38.
Numéro 38. Une femme bouscula un homme qui songeait à celle qui rêvait de l'homme qui vendait des bières dans le buffet-gare. l'homme qui vendait des bières dans le buffet gare regardait la femme qui bousculait l'homme qui songeait à celle qui rêvait de l'homme qui vendait des bières dans le buffet gare. Et comme la femme qui bousculait l'homme qui songeait à celle qui rêvait de l'homme qui vendait des bières dans le buffet gare était bien la même qui rêvait de l'homme qui vendait des bières dans le buffet gare, l'homme qui songeait à celle qui rêvait de l'homme qui vendait des bières dans le buffet gare reconnut sa femme, et ce fut le drame, et ce fut le drame, et ce fut le drame, et ce fut le drame. Qu'est-ce que tu fais, Catherine, à 4h du matin sur le quai de la gare? Qu'est-ce que tu fais, Catherine, à 4h du matin sur le quai de la gare? Qu'est-ce que tu fais, Catherine, à 4h du matin sur le quai de la gare?
Douze.
Le matin, j'ouvre les journaux pour m'informer des merveilles du monde. C'est de plus en plus difficile. Ça piétine dans l'horreur, l'abjection, l'insignifiant, l'inutile, l'approximatif. Les doctes se drapent dans leur cape de lucidité, mais se contentent de longer les murs d'enceinte. La splendeur expire. Le matin, le plus dur, c'est de se taire, de fermer les yeux, d'aller chercher la perfection dans la légèreté du nombre sur la terrasse. Vous allez me dire que tout cela est très égoïste. Oui, sans doute. Mais j'ai besoin de danser à cloche-pied dans le caniveau, sentir simplement le linge propre sur le fil. Je ne vous dirai rien de tout ce qui m'entaille et me lacère. Cela n'est que du plomb qui leste mon vieux rêve obstiné. Ça n'intéresse personne. Être intelligent, c'est réussir à être heureux. Mais non, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi, tu ne comprends rien, ça n'a aucun sens, c'est nul, je n'ai pas les clés, c'est pas fait pour moi, j'ai pas assez lu. Mais si, fais un effort, il n'y a rien à comprendre, faut sentir les choses, c'est pas si compliqué, laisse-toi porter, tu connais tous les mots, tu connais le sens. Mais non, je n'ai pas assez lu, c'est pas fait pour moi, je n'ai pas les clés, c'est nul, ça n'a aucun sens, je comprends rien, c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Mais si, tu connais le sens, tu connais tous les mots, laisse-toi porter, c'est pas si compliqué. Fais sentir les choses, il n'y a rien à comprendre, fais un écor. Mais non, ça ne veut rien dire, c'est n'importe quoi, je ne comprends rien, ça n'a aucun sens, c'est nul, je n'ai pas les clés, c'est pas fait pour moi, je n'ai pas assez lu. Mais si, fais un effort, il n'y a rien à comprendre, faut sentir les choses, c'est pas si compliqué, laisse-toi porter, tu connais tous les mots, tu connais le sens. Mais non, je n'ai pas assez lu, c'est pas fait pour moi, je n'ai pas les clés, c'est nul, ça n'a aucun sens, je ne comprends rien, c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Mais si, tu connais le sens, tu connais tous les mots, laisse-toi porter. C'est pas si compliqué, faut sentir les choses, il n'y a rien à comprendre, fais un effort. Mais ça veut rien dire, mais il n'y a rien à comprendre, c'est n'importe quoi. Mais faut sentir les choses, je ne comprends rien. Mais c'est pas si compliqué, ça n'a aucun sens. Mais laisse-toi porter, je n'ai pas les clés. Tu connais les mots, mais c'est pas fait pour moi. Tu connais le sens, je n'ai pas assez lu.
Un autre numéro ?
100.
Bon, on l'a déjà fait.
Alors, 56.
56. Alors, c'est une petite chanson que j'ai écrite à l'âge de 20 ans, donc soyez indulgents. J'écrivais des petites chansons très brèves, comme ça. Goutte de pluie sur la vitre. Il est 5h de l'après-midi. Sur ton sein, il y a une main couleur de grise. Aïe, je vais faire du café avant que ton mari n'arrive. Télégramme, son avion s'est écrasé.
Trente-cinq.
Rien n'est clos. Je suis le bonheur. Je chante désormais à l'unisson de mes rêves. Je m'étonne à la fenêtre ouverte. Ensemble, tout s'allume. Les cordes se dénouent. Le vent emporte mes vieux vers. Je suis sans maître dans la foule, le fils d'une éternité furieuse. Je ne voulais pas naître, je ne veux plus mourir. Je suis désormais une réponse possible. J'entends la beauté claire au centre des mots, la splendeur d'une place publique, un bruit devenir musique. Je m'accorde à l'inutile, à la fête des corps, à l'exil quotidien. Je suis un oiseau posé sur une épaule, une silhouette blanche, un décor sans usage. Je froisse des étoffes, soigne mes engelures. Je brode à ses yeux mes miracles d'arabesques. Je vais serein servir les teintes du printemps, leur belle mélancolie. J'apprends à oublier, à percevoir l'instant sucré. J'accepte. Un autre encore?
66.
Ce que j'ai à vous dire est tellement triste et con que je devrais fermer ma gueule. Parce que des fois, ça ne sert à rien de remuer la merde. Il faut mieux se contenter de regarder le petit oiseau sur la branche, comme cette petite mésange-là sur le chêne juste devant moi dans le jardin d'en face. Je l'observe depuis une semaine à la jumelle. Pourtant, c'est plus fort que moi. Dès que je vois un truc qui marche, je me dis que c'est pas possible. Il doit y avoir un truc qui cloche. Par exemple, ce couple-là, qui s'est installé juste en face, justement, là où il y a la mésange. Ben, ils sont impeccables. Un couple impeccable. On les croirait sortis d'une pub Ricorée. Beaux, souriants, un peu niais. Le matin, ils sont heureux d'aller bosser. Chacun sa bagnole, ils ont un gosse qui a l'air infernal. Bref, une vie de merde. Et tous les jours comme ça. Alors je les observe, je me la joue fenêtre sur cour. Sauf qu'il n'y a pas de cour, mais un petit jardinier devant, avec le chêne et la mésange. Mais leur quotidien, il est tellement imprévisible que j'en peux plus. Alors j'ai eu une envie irrépressible de leur foutre le bordel, de faire dérailler la machine. C'est maladif chez moi. Depuis que je suis veuf, je m'emmerde. Remarquez, avec ma femme, c'était pareil. On avait une vie qui était réglée comme du papier à musique. C'est le cas de le dire, parce qu'elle était prof de musique dans un collège. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer le quotidien d'un prof de musique dans un collège. Mais bon, il y a des jours, franchement, les mômes, vous les pendriez tous avec une corde de piano après leur avoir enfoncé la flûte traversière là où je pense qu'aucun vrai musicien n'y verrait vraiment à redire. Bon, malgré tout, notre vie était très heureuse. Trop à mon goût, évidemment. Heureusement, elle est morte. Bon. Sinon, je ne sais pas ce que nous serions devenus tous les deux. Accident de vélo. Ça a été vite liquidé. Mais c'est pas moi qui l'ai poussé dans le canal. C'est pas moi qui l'ai rattrapé non plus. Donc, revenons à nos voisins. Je trouve ça vraiment insupportable, leur vie. Bon. J'ai pensé leur crever les pneus, les quatre. Mais bon, ça ne va pas chercher loin. Et puis, c'est un peu gamin. Ils vont faire venir la dépanneuse et en 2 heures, c'est réglé. Ouais. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de la lettre anonyme. Vous savez le truc avec des mots découpés dans le journal, du genre « Tu devrais te renseigner sur ce que fait ta femme, cette salope, quand elle prétend qu'elle va à la gym le jeudi soir. » Bon, alors je l'ai mise hier dans leur boîte et ils n'auront que ce soir, quand ils rentreront, wait and see, évidemment, si c'est elle qui prend l'enveloppe, c'est pas comme si c'est lui. Enfin, vont-ils en parler ensemble? L'un d'eux va-t-il foutre à la poubelle? Bref, comment va se bouger tout ça? Il n'y a plus qu'à attendre. Tous les matins, je vais chez Pierrot. C'est un petit troquet au coin de la rue. Il fait aussi PMU. C'est pas un drôle, Pierrot. Il fait toujours la gueule. C'est comme ça, c'est comme ça l'emmerde de servir les cafés. Je lui commande du blanc. À chaque fois, je lui dis que c'est mieux que de broyer du noir. Ah, ah. Bon, et ça brûle un peu à 10h du matin, mais on s'y fait. Alors, à coup des housins, j'essaie de trouver toujours une place à côté d'un abruti en tablier blanc. Il doit travailler à l'abattoir qui est de l'autre côté de la rue. Il a un cancer de la vessie. Bon, je ne supporte pas cette maladie. Et puis, je ne comprends pas pourquoi il se sent tous les matins obligé de nous commander ses analyses. On n'en a vraiment rien à foutre de son taux de machin, mais non, c'est plus fort que lui, il ne peut pas l'oublier, son putain de cancer. Un jour, il était parti pisser, j'en ai profité pour lui glisser un somnifère dans la tasse. J'en ai toujours dans la poche. Oui, ça met un certain temps à faire effet. Et alors, je me suis dit qu'avec un peu de peau, il pourrait s'endormir sur la voie ferrée juste à côté de l'abattoir. Mais il ne faut pas trop rêver. L'anesthésie sauvage, ce n'est pas précis. C'est un art, l'anesthésie. Moi, voyez-vous, je veux la mort de personne, mais si je peux aider, bon, c'est une règle. Pas plus d'un par jour. Plus ça devient obsessionnel, plus c'est inutile. Il faut que ça soit gratuit. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Non, je déconne. Le boucher, il s'est endormi sur la cuvette des chiottes de chez Pierrot. Pierrot, il a cru qu'il avait eu une attaque, il a appelé le SAMU, mais le boucher, il était réveillé avant qu'il n'arrive. Du coup, les urgentistes étaient plutôt en pétard. Et si vous croyez qu'on est là pour qu'on n'a que ça à foutre, remorquer les gars qui se défoncent à la Tarax, bon. Un jour, je vais tous les endormir. Et vous n'imaginez pas le calme sur Terre. Voilà, on va écouter peut-être maintenant une petite chanson de mon dernier CD, un disque que j'ai enregistré en 2012, c'est le final de L'Ode au temps qui nous reste, avec au piano Michel Goubin.
Le matin m'a lavé, le crépuscule était donc une aurore. Je sais mon attente inondée des archipels retrouvés sur des cartes sonores. Des herbes cueillies aux neiges fondues et toutes les blancheurs. Je chante les péninsules, fête nos étraves. Et traîne au rivage avec les bras de chaque naufrage. Pour l'osier ouvert de nos nuits à venir, la vie compagne de nos laines, j'entends nos musiques d'arbres à nos forêts tranquilles. Elles se propagent comme un feu de joie. Du vent des vergues au rire des nuages, des gorges dénouées aux mains ouvertes de nos cimes. Tout respire. Que montons-nous la sève du poème, ouvrons les portes de la forme. S'ouvrent nos asiles contre la raison de nos arts. Nos guerriers sont morts le jour où nos chants les transpercèrent. Et de toutes nos caresses naquit la danse dans l'élégance des nuées. Car il n'y a pas de loi, il n'y a que l'expérience de ceux qui ont souffert. Le monde est notre combat sans prière, une liqueur descendue de nos plus hauts volcans. Ce qui s'incarne est notre seul trésor, la vie est notre école comme la mer est notre exil. nous sommes libres de nos marches. Nous avons le pouvoir de rêver parmi les morts. Aux mers écervelées dont les courants du hasard l'aube s'ouvre sur nos dérives. On ne sombre jamais, même blessé on nage, car rien n'est perdu tant que brille le large. Voici les salves des derniers monstres fatigués, des églises écroulées par le vent de nos deuils. La main tendue n'est qu'un geste archaïque, elle n'a besoin d'aucun dieu, d'aucune religion. Que monte en nous le chant, archive des oubliés, éternité humaine dans l'orgue des mémoires. Je suis le jardinier plongeant dans les fosses communes, un désordre de mots pour un livre à venir. Et nous, ces témoins d'une algue profane, sans hiérarchie, dans l'hiver aboli, il nous reste le temps, la force du matin, ce temps qui gardera de nous la somme des trajectoires, puisque le temps ne s'arrêtera jamais. Seront là pour occuper tous les possibles.
Alors on recommence. On recommence avec un numéro.
77.
77. Une trace. Il faut laisser une trace. Parce qu'il reste peu de temps. Et si l'on n'y prend pas garde, le temps vous emporte. Alors, il faut laisser quelque chose. Parce qu'il reste quelque chose de nous. Quelque chose qui ne s'oublie pas. Une trace qui reste. Mais c'est difficile quand tout s'arrête. Parce que si l'on n'y prend pas garde, tout s'efface. Le temps emporte tout sur son passage. Et il reste peu de temps pour laisser quelque chose. Rien qu'une trace. Pour que le temps ne nous emporte, parce que quelque chose ne doit pas s'oublier, quelque chose qui dure le plus longtemps possible, peut-être l'éternité, mais c'est difficile, peut-être même impossible, mais il faut essayer, car le temps emporte tout sur son passage, et qu'il reste peu de temps, et que c'est difficile, voire impossible. Regardez la nuit, par exemple, elle est longue la nuit, et les hommes s'y perdent, s'y heurtent, contre les rochers comme des traces sur des miroirs défigurés de la mer, notre mémoire perdue dans l'éternité, alors qu'il faut faire quelque chose, car si l'on n'y prend pas garde, la nuit sera dans notre mémoire l'éternité, et il reste si peu de temps pour laisser quelque chose, pour que le temps ne nous emporte, parce que la mer continue pendant que la nuit efface les traces et que les hommes dorment dans le sommeil profond qu'ils usent, les hommes qui s'usent à vivre et qui suent, alors qu'il faudrait se lever comme quelqu'un qui cherche sa route dans la nuit, pendant que ses faces s'effacent sans prendre garde, que le sommeil le gagne et que l'on se voit dans le temps comme la mer qui use les rochers inexorablement depuis des milliers d'années, le temps, ce temps qui nous emporte.
Numéro 16.
nous faut traverser le monde. Et ces pays, son feu, ses cendres, la densité des eaux profondes et la beauté des salamandres. Partager la grâce du jour, les profondeurs de l'éternel, dessous la stèle de l'amour, être léger d'être mortel. De toutes ces fleurs que l'on sème, tu donnes à boire à des possibles, tu ne comprends pas mes poèmes, mais tu sais lire l'invisible. Ce qui résonne dans ma bouche, l'âme sensible des muets, et cette soif, ce qui nous touche, de ce doux parfum du genêt. Je vis du suc de tes flacons, d'une poussière toujours libre, je te retiens sur le balcon, j'ai peur de ton déséquilibre. Je t'ai tout dit, ce qui se tend, ce câble au-dessus de l'abîme, pour traverser ce qui se fend, la folle attente d'une cime. Rien n'est à dire qu'on ne dise, en ordre et rien qui ne s'appelle. Nous nous offrons à cette brise, est-il un mot qui ne s'épelle? Mais d'où vient tout ce qui nous grise, cette joie rouge sur ta peau, cet instant où rien n'agonise, aucune chute, aucun écho? Je porte en moi une envie pleine de tes tissus, tes fleurs d'orange. J'ai sur mes lèvres et dans les veines un sang au tien qui se mélange. Dans la texture végétale de tes cheveux que je caresse, nous avançons dans un dédale où notre alcool cherche une ivresse. Monte à nos bouches, ô mon désir, du puits de l'âme un lent vertige. Par cette fleur où va jaillir le nectar au bout de la tige, viens mon festin, mon évidence, viens que l'on brûle, ouvre ton corps pour la musique de nos danses, que ta voix trouve un seul accord. Je suis le fusil de ton chien, je nous rassemble à notre lit, je vais rejoindre tes deux seins, je suis la route à l'infini. Tu es l'océan qui se noie, je suis ce fauve qui se tend, la somme ardente de nos doigts, cette carcasse t'écrasant. Et je regarde ton visage, tes yeux qui vont à l'essentiel, lorsque je cherche ton passage, celui de mon septième ciel, dans les sueurs de l'abandon, que s'éveille une frénésie, dans nos draps verts et leurs poissons, une cadence jusqu'au cri. Je flambe en toi comme une torche, je te pénètre tout entière. Voici les spasmes qui s'accrochent à mon épée dans ta bruyère. Un rougeoiement comme un orage dans cet instant qui nous absente. Tu me rejoins, je suis en nage. Ah, que l'éclair d'amour enfante. Là, comme l'amour est immense, quand il a bu à ses eaux pures, lorsque descend cette semence, cet or vivant, ce long murmure. Dans tes yeux passe un paysage, une ombre tendre à fleur de peau, le repos de notre attelage, le remerciement des oiseaux. Et le silence se remplit de nos deux chairs qui se dénouent. Nous étions faits pour l'incendie, nous sommes faits pour être nous, pour cette rose et ses pétales qui tombent sur ce qui s'endort. C'est la grand voile qui s'affale, nous étions nés, nous sommes morts. Il nous faut traverser le monde et ses pays, ses feux de cendres, la densité des eaux profondes et la beauté des salamandres.
Numéro 3.
J'aime bien les poissons d'eau douce, surtout allongés sur la mousse. Mais j'aime aussi les cabillauds quand je m'allonge sur le dos. J'aime bien l'ablette italienne, surtout préparée à l'ancienne. Mais j'aime aussi le chavasson avec une sauce à l'oignon. J'aime bien la truite commune quand je somnole sous la lune. Mais j'aime aussi le poisson-chat quand il me glisse entre les doigts. J'aime le barbeau fluviatile quand je reviens du centre-ville. Mais j'aime aussi les gros gardons avec une sauce à l'oignon. Mais ce qui vraiment me perturbe, ce sont les brèmes du Danube, les Barbus péloponnésius et les myoxocéphalus, les ictalurus furciatus, et les pelusus cultratus, les aspusasus tenatus, et les chondrostomas nasus, les dutilus partiaticus, et les cotus fessilopus, les plastistis flexus luscus, et les foxinox percnurus, les et les plastistis flexus luscus.
Les 12.
Je suis mort peu de temps après avoir quitté le Parti communiste français. C'était un lundi matin, je m'en souviens encore très bien. Nonchalamment, je me promenais sur les quais de Tunis, à Toulouse. Soudain, un conteneur recouvert d'affiches électorales de Claude Liabresse et de Robert Piquet se décroche d'un câble et m'explose littéralement le crâne. J'ai juste eu le temps de me rendre compte que c'était moi qui les avais collés quelques semaines auparavant. Arrivé au ciel, on me dirige aussitôt vers le bureau de Joseph Staline. Comment ? Mais ce n'est donc plus Jean-Pierre qui accueille. Non, désormais, c'est moi qui ai pris les rênes. Ah, les rênes, Joseph, les rênes, avec un seul N et un accent circonflexe. Oh, ne fais pas le mariole, hein. Je sais très bien qui tu es. Cela me flatte. Joseph Staline connaît mes chansons. Pourtant, ça commence à sentir plutôt le roussé pour ma pomme. Joseph est vraiment dans tous ses états. Oh, je les connais bien, moi, les petits foies jaunes révisionnistes de ton espèce, là. Je m'en vais te les mater, moi. Ah, mater, là, il faut pas d'accent circonflexe. Tais-toi, je vais t'apprendre le vrai vocabulaire, moi. Ici, c'est moi qui fixe l'orthographe. Les poètes comme toi qui la ramènent, tu sais ce que j'en fais ? Je leur branche des électrodes dans le cul jusqu'à ce qu'ils me récitent par cœur le manifeste du Parti communiste et l'intégrale du Capital. 17 volumes en géorgien. Et si c'est pas suffisant pour les Français, je continue avec les œuvres complètes d'Aragon, et ensuite je leur inocule tous les disques de Jean Ferrat. C'est tout ce qu'ils méritent. Mais Jean Ferrat n'est pas communiste, et il n'a jamais pris sa carte. Ça suffit. Je vais t'envoyer dans un endroit de Sibérie, et dès que tu parles, t'as la bite qui gèle. Et pour finir, je te ferai bouffer les testicules par des facochères comme à ton vieil ami Essénine, là. Ah, mais... Joseph, il n'y a pas de facochère en Sibérie. J'en ferai venir exprès. J'ai regardé ton dossier au KGB, ben c'est pas joli joli. Hein. J'ai appris que tu étais né l'année où je suis mort. Ça va pas ranger tes affaires, ça. Et puis les poètes qui défendent les PD et les juifs, eh, je m'en méfie comme du choléra. Chaque fois que je tombe sur un électron libre comme ta gueule, là, tu sais ce que j'en fais, moi ? Je l'écrase comme un cafard. Oh, mais, écoute, Joseph, j'appartiens quand même au plus grand parti de France. Ah oui, et lequel ? Mais celui de tous ceux qui ont quitté le PCF depuis le congrès de Tours. Et tu ne peux pas quand même les exterminer tous, vu qu'ils sont déjà morts comme moi. Ne me dis plus tu, t'es plus un camarade. T'as pas repris ta carte. Je ne sais pas ce qui me retient de te renvoyer sur terre pour faire ton autocritique sur la grande scène de la fête du Luma. Justement, il y a Mireille Mathieu qui vient de commencer. Non, non, pas Mireille Mathieu, je vous en prie, Joseph, ne faites pas ça, ne me renvoyez pas. Et c'est alors que le ciel s'ouvre. Mireille Mathieu est là, devant moi, nue et enchaînée. Elle chante « Pardonne-moi ce caprice d'enfant » en russe. Avec une sacrée migraine, je m'éveille sur cette drôle d'image. Machinalement, j'allume la télé. Georges Marchais est en train de parler devant une forêt de micros et de journalistes. « Nous avons signé cette nuit un bon accord avec le Parti socialiste !» dit-il, l'air vraiment satisfait de lui-même. Et c'est là, à ce moment précis, que je comprends que le vrai cauchemar vient de commencer. Un petit mot sur cette nouvelle que j'ai écrite en 1978. 18, oui. J'avais 25 ans.
Et tu avais quitté le Parti communiste en 74.
En 78. Je l'ai quitté en 78. J'ai écrit, et c'est un texte que j'ai écrit dans une grande douleur. De trahison, de je me suis, c'est, j'ai eu, c'est marrant parce que comment on écrit finalement des choses humoristiques comme ça quand on est désespéré un peu, j'en pleurais, moi, de ça, de cette période-là. Ça a été un moment très, très douloureux pour moi. Et donc, voilà. Bon, mais ça m'a passé. Je les aime bien, les communistes, maintenant. Un autre numéro. Non, il reste 2 minutes, donc on n'a pas le temps d'en faire un dernier.
Alors, puisqu'il nous reste quelques secondes,
oui.
Tu as parlé de ça, et je me souviens d'avoir reçu, moi, Gilles Presnitzer, que tu as bien connu.
Presnitzer.
Grand, Gilles Presnitzer, grand poète qui habitait Toulouse. Hein.
Oui, tout à fait.
Et le jour où je l'ai reçu, c'était la mort de Jean Ferrat.
Ah oui.
Et donc j'avais préparé, évidemment, quelques passages de Jean Ferrat, des chansons, oui, de Jean Ferrat. Et il m'a dit, Christian, ne me fais pas ça. Jean Ferrat, c'était le rossignol du Parti communiste. Je ne peux pas supporter.
Ah, c'était un être merveilleux. J'ai eu l'occasion de le connaître très bien, Jean Ferrat. Oui, et c'était un...
C'était une injustice totale.
Oui, en plus, il n'était pas du tout communiste. Il était compagnon de route. Et c'était un être merveilleux. Vraiment, j'ai passé des moments formidables avec lui. C'était un être d'une très grande générosité. Je me souviens, si j'ai un petit moment, pour raconter une anecdote, simplement pour vous dire qui était Jean Ferrat.
Oui.
Un jour, on va avec Colette, son épouse, on va boire un coup dans un café où il y avait une grande terrasse. Et on boit un coup, tous les trois, on était. Et à un moment donné, Jean se lève et il s'en va. Il me dit, je vais aux toilettes. Il va aux toilettes et il revient. Et quand il revient, on s'en va. Et j'ai dit à Colette, pourquoi il a mis si longtemps pour aller aux toilettes et il a des problèmes de... Et non. Et simplement, ce qu'il avait été faire, c'est payer les consommations de toutes les personnes qui étaient dans le bar. Il y avait au moins 100 personnes. Il avait payé, sans rien dire, toutes les... Voilà, il me dit, il fait ça. Quand il est heureux, il fait ça. Il a les moyens, il le fait.